I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à revoir sur grand écran un merveilleux classique des années 80, l'aventure intérieure de ce bon vieux Joe Dante, le réalisateur de Piranhas, The Burbs et évidemment des indémodables Gremlins. On va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial, l'aventure intérieure et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'aventure intérieure, donc 1987, Dennis Quaid, Martin Short et Meg Ryan au casting. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Joe Dante. Toi, Rafik, vu ton grand âge.
Mon grand âge, canonique.
Canonique, tu l'as vu au cinéma, en
je
salle.
Je l'ai vu en salle, oui.
Et à l'époque, fait. Ça n'a pas été un succès.
Alors, c'est assez curieux, effectivement, puisque c'est un film qui aujourd'hui est vu comme un emblématique des succès années des années 80, et ça a été un énorme échec. Pour preuve, je n'ai trouvé absolument personne à l'époque qui acceptait de venir voir le film avec moi en salle. la raison pour laquelle ça a été un échec reste relativement mystérieuse encore pour Joe Dante. Cependant, il y a quelques explications à cela. Le film avait été très soutenu. En amont, parce que les projections test étaient excellentes, des notes très très hautes, ce qui semble évident vu le film, qui est en tout point un crowd pleaser, c'est-à-dire un film familial, bourré d'action, drôle, rythmé, enfin il y a rien à redire. Dante, par exemple, qui était persuadé qu'une comédie ne pouvait pas faire plus de 80 minutes, lui c'était son standard, avait du mal avec l'idée que le film fasse 2 heures, mais la vérité c'est qu'ils n'arrivaient pas à couper dedans parce que tout fonctionnait tellement bien. Donc il y avait une espèce d'assurance sur le fait que bon, ça allait sortir et être un bon succès d'été, surtout avec le label Steven Spielberg présente au-dessus. Simplement, en fait, le marketing a été très très mal pensé. Aux États-Unis, le film est sorti avec une affiche extrêmement mystérieuse, on voyait une énorme main qui tenait le petit vaisseau. Il y avait aucune explication sur ce que c'était. Le titre Inner Space, ça disait rien aux gens non plus. Et enfin, les comédiens, le seul comédien à l'époque qui était bankable auprès du public américain, c'était Martin Short, puisque c'était un des comédiens du Saturday Night Live que les Américains étaient habitués à voir donc régulièrement le samedi. On est à une époque où Dennis Quaid et Meg Ryan ne sont pas encore des vedettes. Meg Ryan, elle sort de Top Gun où elle avait joué un second rôle. En gros, c'était juste la petite amie sympa dans Top Gun. Et enfin, Dennis Quaid, il avait l'étoffe d'héros derrière lui, mais c'était pas plus que ça. Et donc c'était vraiment le Martin Short qui aurait dû porter le film pour le public américain. Il n'était pas mis en évidence sur l'affiche. Donc on ne savait pas que c'était une comédie, on ne savait pas que c'était un film d'action, et on ne savait pas qu'il y avait Martin Short dedans. En France, l'affiche, en Europe, l'affiche a changé. Ils ont corrigé le tir en faisant une affiche où on voyait les comédiens, donc on voyait bien Martin Short, ce qui était idéal puisque personne en Europe ne savait qui était Martin Short. Donc voilà. Et enfin, le label Spielberg n'a pas, outre le fait qu'ils se sont probablement trop reposés sur le nom de Spielberg, il avait moins d'impact à la fin des années 80 qu'il n'en a eu au milieu, puisqu'entre temps, Spielberg avait enchaîné La Couleur Pourpre et s'apprêtait à sortir Empire du Soleil. Donc la presse avait tellement insisté sur le changement d'univers de Spielberg, que le public d'une certaine façon avait dit au revoir à ce Steven là. Donc voilà, ça a été donc un échec lamentable qui s'est largement rattrapé en vidéo. Où là, pour le coup, ça a été un carton et fait partie de ces films qui ont convaincu les studios qu'il fallait un peu plus surveiller justement l'après-vie en salle.
Quelle place il occupe, selon toi, dans la filmo de Joe Dante, ce film ? Quelle position tu lui trouves ?
Alors, déjà, on peut considérer que c'est un film de commande, puisque Dante... Je prononce Dante, j'aime bien. Dante sortait d'un film qui lui tenait à cœur, mais qui avait été un gros échec. Qui, de toute façon, était un film qui n'avait aucune chance, je pense, de marcher, qui était Explorers. Mm. Film intimiste, mais qui avait été vendu comme le nouveau film du réalisateur de Gremlins, ce qui n'était pas très judicieux. Et donc, il avait d'une certaine façon besoin de se refaire. Il avait refusé le script de Dinner Space au départ parce que c'était un film sérieux. Prosser, qui était le premier scénariste, avait calqué ce film de ses visions du voyage fantastique de Richard Fleischer. Donc je resitue pour ceux qui ne l'ont pas vu, un film des années, film de science-fiction des années 60 avec l'extraordinaire Raquel Welch à l'époque, voilà, et l'égérie de cette époque, dans laquelle un groupe de scientifiques, donc. Rentre dans le corps d'un patient dans le coma, qu'on peut considérer comme étant, à l'époque, le voyage fantastique, et on peut considérer que c'est le premier grand film hollywoodien entièrement psychédélique, puisque en gros c'est une excuse d'avoir des visions de l'intérieur du corps humain de toutes les couleurs, etc. Donc le type avait, Brother avait repris ce pitch en se disant, et qu'est-ce qui se passerait si le gars dont on explore le corps était en mouvement et répondait à ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et là, il a commencé à imaginer un spy thriller, donc un thriller d'espionnage dans lequel le type était poursuivi alors que l'autre était dans son corps. Mais c'était complètement sérieux. Et Dante, bon, ça lui parlait pas trop. Entre-temps, le projet est passé entre différentes mains. Il y a Carpenter qui vaguement a été intéressé. Ouais. Donc on voit qu'on était vraiment dans un autre ton. Oui. Ce qui a vraiment changé, c'est pendant que Dante... Donc, était sur Explorers, terminé Explorers. En fait, Spielberg a été approché par le truc et c'est probablement Spielberg qui a modifié le cours des événements en insistant justement sur le côté comédie. Et donc, Jeffrey Boham, qui à l'époque était un des protégés de Spielberg, c'est lui qui devait bosser sur le nouvel Indiana Jones, qu'on a, le fameux Indiana Jones 4 qu'on n'aura jamais vu.
Pas celui-là, voilà, l'autre.
Pas celui-là, l'autre. Jeffrey Boham avait eu cette idée de faire une espèce de Dean Martin, Jerry Lewis moderne, où en gros c'était et qu'est-ce qui se passerait si Dean Martin était à l'intérieur du corps de Jerry Lewis. Donc voilà, le jeu des comédiens est d'ailleurs un peu calqué là-dessus, comme vous le verrez si vous n'avez pas vu le film. Et quand Dante est revenu quand on lui a représenté ce nouveau script, l'élément comédie a complètement fonctionné cette fois-ci. Il s'est dit, ok, celui-là je le fais. Et en plus, il sortait d'un échec, il avait besoin de se refaire avec une production, comment dire, qui était ouvertement commerciale, qui était un film d'été, mais en même temps où il avait l'assurance d'être protégé. Parce que Joe Dante, qui est quand même un réalisateur quelque part assez fragile, c'est pas un bon négociateur avec les studios et tout. Et l'avantage chez Amblin, parce que c'est une production Amblin, c'est qu'à l'époque, Spielberg vraiment protégeait ses réalisateurs de toutes les interférences. Oui. Les mecs faisaient leurs films. Et il en est extrêmement satisfait. Il peut, hein, pour cause, parce que c'est vraiment un film où tout fonctionne et où son goût naturel pour... on va dire le camp des années 50 et 60 s'exprime librement. On a des aspects très cartoonesques, il y a des hommages aux cartoons récurrents. On a Chuck Jones qui fait d'ailleurs une apparition dans le supermarché en mangeant une carotte, donc en référence à un de ses personnages de dessin animé célèbre qu'il a animé. D'ailleurs, je crois qu'on voit un Bugs Bunny à un moment donné dans le film aussi. Bien sûr, le voyage fantastique est cité. Le médecin qui s'occupe de Martin Short est aussi celui qui s'occupait du héros du film L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Et puis, il y a aussi pas mal d'idées en suspens qui étaient d'autres projets qui se sont greffés. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup et qui est finalement assez peu connue. C'est que dans le script original des Aventuriers de l'Arche Perdue, on avait trois bad guys. Donc on a Belloc, le français, le mec de la Gestapo et un officier SS finalement qui n'a pas trop d'importance dans le récit. Mais à l'origine, cet officier-là avait un bras mécanique qui lui servait d'arme en fait. Et il pouvait régulièrement changer et mettre des canons de lugère dessus, etc. ça avait été jugé à l'époque un peu trop too much. Et là, vu que le film s'y prêtait complètement, oui. ils ont décidé de réutiliser cette idée. Et là, pour le coup, ils se sont donné à cœur joie sur les utilisations multiples du bras mécanique. Voilà, donc c'est un film d'un tournage qui s'est fait dans une ambiance assez légère. Et je
oui,
pense
c'était
qu'on,
la,
on
ma
le
prochaine
voit.
Question,
ouais.
c'est comment s'est passée la fabrication du film
C'est un film qui s'est fait vraiment tranquillement. C'est-à-dire ils avaient l'argent, aucune interférence du studio, un script sur lequel tout le monde était d'accord, des comédiens qui, pour la plupart, avaient beaucoup approuvé. Martin Short, c'était son premier rôle important au cinéma, donc il a donné de lui-même à fond, peut-être même un peu trop pour certains, puisque basiquement il changeait de réplique à chaque prise, et du coup les mecs ne savaient plus quelle prise choisir, parce qu'il y avait 14 gags différents à récupérer, ce qui était toujours ennuyeux pour le comédien qu'il avait en face de lui, qui lui avait donné sur la première, quoi. Voilà, Dennis Quaid et Meg Ryan, ils sont basiquement tombés amoureux pendant le tournage. Donc, du coup, ils se sont mariés un peu après, et puis ils ont fait plusieurs films ensemble. Donc, voilà, c'est un film qui s'est fait tranquillement.
La bonne humeur du tournage transpire un peu sur la copie finale, quoi.
Tout à fait, oui. Et avec, il faut le spécifier, des moyens corrects, enfin, pas considérables, mais corrects, et qui vont notamment permettre à ILM de livrer un travail assez insensé pour l'époque, puisqu'on est donc en 86, quand le film se fait, c'est-à-dire bien avant que les images de synthèse n'arrivent au cinéma, et tout ce que vous allez voir comme effets spéciaux dans le film de l'intérieur du corps humain, c'est du practical effect, c'est de la maquette, c'est des éléments filmés in caméra, et il y a des moments où on se dit, mais juste, Comment ils ont fait ça? Enfin, les globules qui se baladent dans tous les coins, etc. Les océans d'acide de l'estomac, tout ça. Il faut voir les photos de tournage avec les types qui ont des intestins absolument gigantesques, bien visqueux, etc. Donc voilà, Denis Muren et son équipe ont fait un travail extraordinaire qui leur a valu l'Oscar, d'ailleurs. Oscar remis par Sean Connery, en personne. Jerry Goldsmith aussi, qui entre-temps était devenu ami avec Joe Dante, puisqu'ils s'étaient rencontrés sur la quatrième dimension, s'est autorisé aussi à pas mal expérimenter. Goldsmith était obsédé depuis des années par l'idée d'utiliser le synthétiseur dans l'orchestre symphonique. Et il l'avait un petit peu fait sur le film Legend, de Ridley Scott, mais là il avait un peu, on attendait de lui un score un peu outer space, on va dire. Il s'est permis vraiment de l'utiliser à fond, et c'est triste, c'est un peu con ce que je vais raconter, mais il préfigure, hélas, les dérives à la Hans Zimmer qui vont arriver à la fin des années 90, notamment dans les scènes d'action, où en plus de l'orchestre symphonique, on a aussi des à-coups de synthé très, très, très martelés.
Avec des moins gros sabots que Hans
Tout
Zimmer,
à fait. Ouais. Mais qui va réutiliser, Goldsmith réutilisera ça dans Total Recall. Donc vous reconnaîtrez un peu les accords de Total Recall dans la musique si vous y faites attention. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur...
Comment est-ce que Joe Dante a vécu, lui, la pérennité de ce film ? Je veux dire, d'abord l'échec, puis le retour en grâce dans les années 90-2000.
Ces réalisateurs-là, ils ne sont pas tellement attachés à l'idée que leurs films finissent par trouver leur public tardivement. Ouais. Ils sont toujours peinés de voir que ça n'a pas...
Ce qui importe, c'est de ne pas le trouver sur le coup.
C'est pas Carpenter, il n'est pas dépressif au point que 20 ans après, il ne faut toujours pas lui en parler.
Blessure
à vivre. Non, c'est juste l'incompréhension et de se dire que finalement, le succès d'un film dépend de très très peu d'éléments. En fait, rétrospectivement, Dante, il est convaincu que si Gremlins était sorti 2 mois avant, il se serait planté. Parce que L'Aventure intérieure, qui pour lui est un film aussi réussi, est arrivé peut-être à la mauvaise date, et que 2 semaines après il aurait été un carton, voilà. Ouais. Donc il y a un côté fragile, en fait, qui fait que ils sont, quand on leur dit que sur le long terme ils ont trouvé leur public, c'est normal qu'ils aient trouvé leur public. Oui. Le mec te répondra, mais évidemment qu'il a trouvé son public, c'est un bon film. Du coup, tu l'as vu. mais c'est vrai que sur le moment, ça donne hélas raison à la loi du marketing, c'est-à-dire tu peux faire un bon film, mais il faut aussi savoir le vendre, il faut aussi faire en sorte que les gens subodorent que ça puisse être un bon film, ce qui n'était effectivement pas le cas quand il est arrivé à l'affiche. Les gens voyaient l'affiche, ils disaient, et alors, pourquoi j'irais voir ça ? Dommage, quoi.
Quelle influence d'après toi, quel film il a particulièrement influencé L'Aventure intérieure ? Où tu retrouves, toi, sa pérennité chez des productions beaucoup plus récentes, justement ?
J'aurais un peu de mal à la nommer précisément, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait retrouvé si facilement un film qui puisse être léger sans être cynique, en fait. Parce que même si j'ai beaucoup d'affection pour les Men in Black qui vont arriver dans les années 90, pour prendre un exemple, il y a quand même une posture un peu...
distancée.
Ouais. Là, l'exploit, c'est de réussir à faire drôle en étant vraiment dedans, en y croyant toujours. Les comédiens peuvent cabotiner à mort. Ils sortent jamais vraiment de leur personnage. Voilà, celui qui joue le rôle du cow-boy, Robert Picardo, il est juste sublime, quoi, dans l'exagération.
Il est dans l'hyperespace.
Voilà. Je suis sûr que si tu lui parlais sur le plateau, il était persuadé d'être ce mec-là, tu vois. et lui, il s'est bien donné. D'ailleurs, il y a un exploit olympique qu'on lui doit sur ce film, puisque il y a une séquence où donc le héros s'est transformé avec le visage du cow-boy. Meg Ryan est terrifiée par ce qu'elle voit et lui explique que le vrai cow-boy est dans la baignoire, et donc elle va vérifier dans la baignoire et elle voit le mec est ligoté dans la baignoire. Or, c'est un plan séquence. Plan séquence d'avant l'ordinateur, hein. Donc c'est fait in camera, ce qui fait que Robert Picardo, il est avec Meg Ryan, et le temps que Meg Ryan aille dans la salle de bain, lui, il a changé de costume, il a refait ses cheveux et il s'est fait ligoter dans la baignoire. Et apparemment, sur le plateau, c'était juste hilarant de le voir courir comme un malade en enlevant sa chemise pour arriver au bon moment, pour récupérer la caméra à temps.
Magnifique. Bon, je propose qu'on regarde ça sur grand écran maintenant.
Oui, je pense que quels sont ceux qui n'ont pas vu ici le film ?
Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Ah, pas mal de mains quand même.
Vous avez bien fait de venir.
Vous avez passé une bonne soirée. Merci beaucoup, Rafik. Notre
merci
temps est écoulé.
Thomas.
Merci David à la technique, au Club de l'Étoile, évidemment, pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite.
Rosebud !
Binge.
Bonjour, je suis Azita Vician. À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes.
Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis ? Il y a une histoire quand même derrière tout ça.
Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe.
Roule une boulette.
Une boulette.
Une boulette.
Il y a une technique pour bien rouler ?
Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Et puis, ah oui, on a des battles de boulettes.
Casserole, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, Apple Podcast.
Podcast.
Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, SoundCloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées.
Binge Audio.
Je réussis à le dire en entier.